Denis, Véro et Audrey.
Une Véro, oui, pas de Denis, pas d'Audrey. Ils seront de retour lundi. Nathan et Max qui m'accompagnent jusqu'à 18h. Max, ça va faire changement de tes météos habituelles au tournant de 16h aujourd'hui?
Mais circulation, tu veux dire? Oui,
oui,
c'est moins pire qu'à l'habitude. Là, accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, quand même un ralentissement qui va commencer autant du Plessis qu'Henri IV, je vous dirais, là, entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre Bourgeois. Sinon, il y a la capitale, direction est, où entre le boulevard Neuvial et le boulevard Pierre-Bertrand, c'est au ralenti. Capitale, direction ouest, ça va quand même encore assez bien. Le petit ralentissement à la hauteur de Laurentienne, mais rien de catastrophique. Et sur Laurentienne, direction nord, au croisement avec Wilfrid Hamel. Il y a un ralentissement qui va s'entamer pour déjà se régler là avant même de croiser la capitale. Et peut-être vous rappeler très rapidement que le pont de Québec sera encore une fois fermé en fin de semaine pour des travaux dès 23h59 ce soir jusqu'à 5h30 direction nord lundi matin et 6h30 direction sud.
Vous allez voir pourquoi je me suis fourvoyée entre météo et circulation. Il est la voix du Canadien à RDS depuis plus de 35 ans et lundi, en marge des intronisations au Temple de la renommée du hockey, il deviendra le quatrième francophone après René Lecavalier, Richard Garneau et Gilles Tremblay à recevoir le prix Foster Hewitt remis annuellement par l'Association des diffuseurs à un seul membre d'une équipe de description des matchs de la LNH, radio ou télévision, pour sa contribution remarquable à sa profession et au sport pendant sa carrière. Gravel dans le retour est très honoré de recevoir Pierre Houd. Allô, Pierre!
J'aurais préféré que tu t'en tiennes, mais il est aussi, d'abord et avant tout, notre chroniqueur et notre ami du vendredi après-midi. J'aurais aimé mieux que tu t'en tiennes à ça.
Tu es notre début de fin de semaine, mais c'est parce que, Pierre, j'avais comme pas le choix. Parce que des fois, j'ai de la difficulté à concilier ça. Le fait que tu es un monument des médias depuis tellement d'années, mais que toi, le vendredi, tu t'installes avec nous autres, que tu as du fun, que tu nous suis dans à peu près toutes les directions, ça me... À toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où on ne ferme pas les micros puis on se dit « je peux pas croire que ça nous arrive encore ».
On ne peut pas croire qu'il a dit ça.
Oui, mais je te l'écris, puis habituellement, on trouve ça drôle, là.
Puis loin de là, tu sais, j'ai la chance de remplacer avec Véro Max depuis le début de la semaine, étant donné, bon, Denis qui est en semaine de relâche. J'en parle à Véro depuis lundi, Pierre.
C'est un enfant.
C'est le moment qui... J'avais hâte à ce moment-là, mais c'est aussi le moment qui me stresse le plus. remplacement.
Ah ben là, il faut pas que tu stresses. Si tu stresses, on va te sortir du studio parce que...
OK, ben je stresse pas de bord, je veux rester là.
On va s'arranger.
Moi, des fois, j'ai le droit de stresser parce que souvent, je disais à Véro, je disais à Denis, c'est parce que ça fait tellement d'années.
Ouais.
Et puis, des fois, je dis, c'est pas le syndrome de la page blanche, là, au sens proprement dit, mais des fois, je me dis, bon, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que les auditeurs... ont encore envie d'entendre ça. Parce que qu'est-ce que tu veux? On revient des fois avec des choses dont on a déjà parlé. Mais je réalise aussi que quelque part, il y a un élément macaroni au fromage là-dedans.
Oui.
Il y a un élément de réconfort là-dedans. Et puis, je me dis, bon, ben, je vais vous donner un exemple. Gilles Tremblay, qui est le dernier francophone à avoir été intronisé au Temple de la Renommée.
Ça fait plus de 20 ans de ça, d'ailleurs.
Il y a déjà longtemps, mais Gilles a voyagé beaucoup parce que dans les dernières années de sa carrière, il était aussi l'analyste à la radio des matchs du Canadien. Et donc, Gilles et moi, on s'était vraiment liés d'amitié et on allait très souvent souper ensemble. Et Gilles était un raconteur extraordinaire, puis il y avait vraiment des anecdotes formidables. Mais qu'est-ce que tu veux? Après 5 ou 6 ans, on brassait pas mal toujours les mêmes anecdotes puis tout ça, mais à chaque fois, j'éclatais de rire. À chaque fois, je disais, raconte-moi-là encore. À chaque fois, je disais, reviens là-dessus. Parce que c'était comme notre réconfort à nous. Alors, je me dis, ben, coudonc, tant aussi longtemps que ce sera le feedback que vous avez de nos converses du vendredi, je vais continuer à le faire avec beaucoup de plaisir. Puis, et là, d'autant plus, Véro, que j'étais pratiquement à moi tout seul. Alors, écoute, je...
T'en profites, hein?
J'en profite.
Moi, je me trouve super choyée quand Pierre me dit « Ah, mais même si Denis n'est pas là, moi, il n'y a pas de problème, je vais être là. » Puis tu sais, d'ailleurs, Pierre, à un certain moment donné, il devait venir à Québec, animer une émission avec nous autres. La grand-mère de Denis meurt, Denis pas là, puis il a dit « Non, 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 pas de problème. » S'est installé avec Audrey puis moi pendant 4 heures de temps à faire de la radio. On est allé souper ensemble après. Je pense que ça s'est terminé. Il devait être minuit passé quand on est allé te porter à ton hôtel. C'est des privilèges absolument exceptionnels qu'on a. Là. Non, c'est...
Ouais, ben, mais moi, je vous le dis souvent, vous faites votre segment à vous, j'enlève rien à vos collègues, là, des autres blocs horaires, tout ça, mais votre segment, en fait, ce segment-là, pour moi, c'est aussi mon réconfort quelque part. Ça me sort, ça me permet de sortir un petit peu de mon cadre. Et puis, en fait, ça me permet de sortir de ma cabine, surtout dans les deux sens du terme, parce que c'est pas mal toujours ça, ma vie. Hein? C'est dans une cabine de description ou dans une cabine de son à RDS. Alors,
nous, on le ramène sur le plancher des vaches avec nos niaiseries.
Non, mais ben, je répète aussi que je suis d'abord et avant tout un enfant de la radio avant d'être un enfant de la télé. Alors, c'est toujours pour moi aussi un très grand plaisir que de revenir à mes sources et à mes origines.
Je veux quand même qu'on parle un peu de ce qui s'en vient lundi, parce que hier on s'était échangé quelques messages. Comment va la rédaction de ton discours, d'ailleurs?
Écoute, je l'ai pratiquement mis aux poubelles, enfin, aux poubelles virtuelles, ouais. Parce que j'ai commencé à écrire, puis je me suis laissé aller. Et puis, à un moment donné, à son heure de lunch, Lynn, ma blonde, m'appelle. Elle dit, bon, comment ça va ton discours? Ben, je dis, est-ce que je peux te lire le début? Et parce qu'il faut que je vous dise qu'on m'a, tenez-vous bien, on m'a accordé 4 minutes.
Oh!
Au lunch d'intronisation. Et moi, je dois aller dans les deux langues. Hein? Alors, 4 minutes, c'est pas très long. Et écoute, juste avec mon premier segment, Lynn, elle dit, ben, écoute, elle dit, je viens de te chronométrer, t'es déjà rendu à 2. OK. Alors, je m'en vais dans la mauvaise direction. Donc, vous le savez, moi, j'aime tout le monde. Je veux parler de tout le monde. Je veux parler de tout. C'est pas le temps. Alors, j'ai comme tout mis ça de côté. Et je vais donc m'en tenir strictement à un peu plus de généralité. Parce que je veux prendre le temps aussi de saluer ceux qui seront là sur place au lunch lundi. Parce que j'ai quand même, écoute, une vingtaine de personnes qui viennent et qui ont organisé leur vie là, pour être là. À Toronto lundi. Et plusieurs d'entre elles, ces personnes-là, Véro, auraient dû être à Buffalo, en principe, pour décrire le match du Canadien.
Dont ton collègue Marc, entre autres.
Oui, et mon producteur, Martin Brière, mon réalisateur Stéphane Fauché, notre chef recherchiste Michel Lebel, ce sont tous des gens que je tenais à avoir au lunch parce que je partage ma vie avec ces gens depuis, dans certains cas, presque depuis le début d'RDS. Alors, c'est moi, pour moi, si tu me demandes, l'ultime fait touchant pour lundi midi, c'est que tout le monde, et c'est vrai aussi pour ma famille et mes amis qui seront là, le font en ayant organisé leur propre voyage à Toronto. Ça me touche vraiment à 1000%.
C'est un hommage qui a été annoncé en mai dernier. Quand c'est arrivé, est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que c'est quelque chose à quoi on s'attend après autant d'années à couvrir, par exemple, le Canadien de Montréal, d'être au sein de RDS, ou tu te dis, bon, ça va peut-être venir un jour, mais ça ne fait pas partie nécessairement de ma bucket list?
Oui, c'est plus ça. C'est plus ta deuxième affirmation, parce que... Écoute, très honnêtement, j'en suis à 50 ans de métier. J'ai jamais vraiment pendant une seconde exercé ce métier-là dans le but d'avoir des reconnaissances. C'est la reconnaissance, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à être pertinent, on cherche à être professionnel. Mm-hmm. Et dans le mot professionnel, je pense qu'il y a la pertinence avec tout, avec au sens très large. Tu cherches à avoir le respect de l'auditoire. Tu cherches, bien sûr, à avoir le plus grand auditoire possible. Quel artiste ne voudrait pas avoir le plus grand nombre de spectateurs devant eux, à moins qu'on veuille une salle très, très intime? Et ça, c'est une autre histoire. Mais les grands honneurs, les grands trophées, les grandes reconnaissances, ça n'a jamais été la tasse de thé des Hoods. Paul était comme ça. Paul était très gêné devant tout ça. Moi aussi, je le suis. C'est pour ça que j'ai beaucoup de misère à trouver mes mots devant cet honneur-là, parce que, ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, bien sûr, quand tu es rendu à 35 ans de carrière strictement à décrire du hockey, t'es pas fou. Tu sais que ça peut être une possibilité, parce que un des facteurs, bien sûr, c'est la longévité de la carrière. Y a aussi des gens qui auraient eu une carrière plus longue, dont malheureusement, qui ont été victimes de la maladie et qui ont été intronisés peut-être plus tôt que plus tard parce que le temple, avec tout à fait raison, voulait honorer ces gens-là de leur vivant, tu comprends?
Oui.
Et ça, je peux très bien le comprendre. Mais c'est pas plus que ça. Tu te dis, ben oui, ça se peut, c'est une possibilité. Moi, j'ai été le pilote du dossier de 5 intronisés au Temple de la Renommée parce que je trouvais que c'était mon devoir de jeune annonceur à l'époque d'être actif au sein de mon association et de m'assurer qu'on n'oublierait pas personne. Un dont je suis très fier, c'est Peter Maher, qui a été la voix des Flames de Calgary à la radio pendant tellement d'années. Et c'est un article du Calgary Sun qui parlait de la carrière de Peter et qui m'a dit « Wow, si moi, je ne prends pas l'initiative, j'ai peur qu'on oublie cet homme-là qui mérite tellement d'être au Temple de la Renommée. » Alors, j'ai écrit tout le dossier de Peter, je l'ai soumis à l'association et il a été reçu, finalement, l'année suivante. Et pour boucler la boucle, Véro, Peter est maintenant membre du comité de sélection.
Alors... C'est lui qui a piloté ton dossier?
Ouais.
Non, c'est Marc qui a été le leader de mon dossier.
Ah oui!
C'est Marc. Il y a eu beaucoup de gens d'RDS qui l'ont appuyé. Il y a le président de la Fédération internationale de hockey, Luc Tardif. Il y a M. Molson, Jeff Molson. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont appuyé, cette démarche-là. Mais j'ai beaucoup de collègues qui sont déjà au Temple de Renommée qui m'ont dit que ça avait été assez unanime là, pour le comité de sélection. Alors oui, on est reconnaissant de tout ça. Puis oui, quand ça nous arrive, on n'est pas au-dessus de ça, tu me comprends?
Ça fait un velours,
puis
là.
Puis t'es en nomination pour un Gémeaux, t'es en nomination pour un trophée. Bien sûr que quand on annonce ton nom, quoi que le trophée artiste, on ne m'a pas prononcé mon nom très souvent.
Ça, j'en reviens pas, c'est un scandale, non, Pierre.
Mais c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est que c'était pour faire une blague. Mais bien sûr qu'on est heureux quand ça arrive. Mais c'est pas la nourriture quotidienne. Ça, c'est clair, tu me connais de toute façon.
Tu parlais de tes collègues, justement, de Marc qui a piloté ce dossier-là. Puis je trouve ça beau de lire les hommages que tes collègues te rendent dans les derniers jours, dans les différents papiers. Ce que je retiens comme mot beaucoup, c'est l'accueil. L'accueil que tu accordes à ces collègues-là, la place que tu leur permets de se tailler eux-mêmes. Quand toi, tu as commencé dans le métier, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que tu as été accueilli de cette façon-là aussi?
Ah, c'est une très, très bonne question. Et la réponse, c'est oui. Mais évidemment, ce n'était pas à RDS, parce qu'à RDS, on a mis au monde RDS. Alors, mais oui, j'ai été accueilli. Et je vais te dire exactement quand je l'ai ressenti le plus, c'est quand j'ai eu ma première assignation olympique à la télévision, à Radio-Canada. J'avais été invité comme pigiste à décrire l'aviron et le canoë-kayak dans le bassin olympique à Los Angeles. Et imagine-toi que, et là, avec le décalage horaire, bien sûr, et avec la réalité aussi du bassin du lac Casitas, je pense que tu as visité la vallée de l'Ohio, Véro.
Oui.
Là où est le lac Casitas.
Oui.
Évidemment, pour éviter la vague vers l'heure du lunch, les compétitions étaient à 7 heures le matin. Et donc, on prenait l'antenne très, très tôt. Imagine-toi que le chef d'antenne qui nous envoyait la parole, c'était René Lecavalier à l'époque.
Wow.
Alors, quand tu parles d'accueil, j'ai eu mes premiers contacts avec René un peu avant ça, là, pour d'autres raisons. Mais disons que là, je suis rentré, je me rappellerai toujours le premier petit déjeuner, 4 ou 5 jours avant les Jeux. Je rentre à la petite cafétéria de l'hôtel, puis je suis assis avec René Lecavalier, je suis avec Richard Garneau, je suis avec Lionel Duval, je suis avec Pierre Dufault, je suis avec Raymond Lebrun. Écoute, je t'en parle.
C'est pas intimidant du tout, ça.
J'ai encore les frissons de t'en parler. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Puis, écoute, René a été le premier. Venez vous asseoir. Puis, imagine-toi, il me vouvoyait. Venez vous asseoir, Pierre. Et puis, on a beaucoup entendu parler de vous. Et puis, on est content de vous avoir. Et puis là, commence à parler avec un, puis commence à parler avec l'autre. Et René était très généreux de ses conseils. Et là, quand les Jeux ont commencé, René Potier et moi, René faisait la radio, moi je faisais la télé, on voyageait ensemble, ça prenait 2 heures se rendre à la vallée de l'Ohio. Et puis René Lecavalier était déjà debout à 4 heures du matin, il était dans le coffee shop de l'hôtel. Et puis, bonjour Pierre, comment allez-vous? Imagine-toi. Alors, c'est wow. absolument incroyable. Alors, l'accueil dans la grande famille, disons, du sport à la télé, je l'ai vraiment eu là. Et je me dis souvent, si ça n'avait pas été comme ça, est-ce que j'aurais trouvé la même drive? Mm-hmm. Est-ce que j'aurais trouvé la même confiance en moi? Peut-être que non. Et très rapidement, c'est le contraire qui est arrivé. Je me suis senti accueilli et je me suis senti capable de faire partie de l'univers qui était l'univers de mes idoles quand je grandissais comme enfant et comme adolescent.
Est-ce que tu as toujours eu l'assurance que ça allait fonctionner ou pendant toutes ces années-là, puis on va parler essentiellement des 35 ans au sein de RDS, puis à être au match du Canadien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes? As-tu des moments où tu t'es dit, je pense que ça ne marche plus de mon côté, j'ai plus la flamme, ou ça a toujours, toujours été aussi passionnel, si on veut?
Oui, pour la passion et la flamme. Honnêtement, je n'ai pas eu de baisse. Je dis souvent, puis pas pour me vanter, c'est la constitution que j'ai. Ma flamme a toujours même été plus forte que la maladie. Écoute, j'ai déjà fait une demi-saison avec une pneumonie, puis personne ne s'en est rendu compte. Mais moi, je le savais. J'ai passé presque une demi-saison en béquille quand je suis revenu avec un ligament déchiré des Jeux olympiques de Nagano. Je me suis traîné en béquille dans les avions, dans les aéroports pendant une demi-saison. Alors, la flamme a toujours été plus forte que ça. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Le grand moment de doute est arrivé quand les recherchistes de votre voisin, Claude Bernatchez, quand sa recherchiste m'a téléphoné un matin et elle m'a dit « Est-ce que vous voulez commenter la terrible nouvelle? » Et j'étais encore au lit, je n'avais pas encore mis mon réveil pour mes radios à Montréal. Et j'ai dit « Ben, qui est décédé? » Non, 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 c'est pas ça. Vous n'avez plus de hockey à RDS.
Non, mon Dieu, oui, c'est vrai.
Et c'est Bernatchez, Claude et son équipe qui... et là, je lui ai dit, elle dit, on est prête à aller en onde. Non, non, amenez-moi pas en onde.
Je suis au courant de rien, là.
Je sais pas de quoi vous parlez. Donnez-moi une heure pour me retourner. Et là, j'ai tout de suite ouvert mon ordi. Et là, j'ai lu les premières nouvelles qui sortaient. Alors là, j'ai eu une crainte, j'ai eu une peur. Je suis tombé assis sur ma chaise. Et là, je me dis, Michel dort en bas, elle va rentrer au secondaire bientôt, ou en fait, plutôt au cégep, puis vers l'université. J'ai pas encore mon fonds de retraite. En fait, écoute, il passe tout ça par la tête. Mm-hmm. Et ça a pris quand même un certain temps avant qu'on comprenne qu'il y avait quand même une issue pour nous autres. Alors ça, c'est probablement le moment où j'ai eu le plus d'angoisse. Pour le reste, Véro, je me rappelle de mon premier match avec Yvon Penneau. Et puis, j'ai dit à Yvon, écoute, Yvon, on n'a pas 50 000 options, on en a deux. Ou demain matin, on dit, mais c'est qui ces deux-là? Ou demain matin, ils disent, wow, t'as-tu entendu ces deux-là? T'sais, bon, il n'y avait pas d'autres options. Il y en avait juste deux. J'ai dit, moi, je choisis la première. Et on a foncé dans le tas et on a eu des critiques extraordinaires dès le lendemain matin, dès le premier match. D'ailleurs, je vais toujours être très, très, très reconnaissant envers les journalistes qui ont pris le temps d'écrire le lendemain matin et puis qui ont pris le temps ensuite de nous dire « Wow, vous êtes rafraîchissant, vous apportez une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension. » Alors, la motivation, l'appétit, la volonté d'excellence, je suis chanceux. Ça n'a jamais cessé chez moi. Mais il faut toujours garder ses deux pieds sur terre en même temps, t'sais.
Justement, Pierre, ça m'amène à te parler de ce qui se passe présentement chez le Canadien. Puis je dis présentement, on peut inclure la saison passée là-dedans aussi. Bon, cette saison, il y a eu l'histoire du mix. Puis là, le Canadien va-tu se battre pour une place en série qui aura probablement été, puis on le voit déjà, une erreur de parler de ça. Mais dans une séquence difficile comme présentement, à quel point c'est difficile de, un, garder la flamme soi-même, puis deux, de s'arranger pour que ceux qui écoutent n'aient pas le goût de farmer à TV après une période?
Ben écoute, on n'a pas le contrôle sur 100% de ça, Max. Tu vois, regarde, je viens d'avoir les chiffres d'hier, on sent une petite érosion là, dans l'auditoire. Richard Therrien les publie sur Facebook.
Ouais.
Richard est un chroniqueur émérite, de toute façon, vous le connaissez bien à Québec. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de contrôle là-dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On aimerait...
Sur la qualité de match, puis ben non.
Oui, sur la qualité de match ou sur la... Nous, j'essaie toujours, puis c'est le conseil que je donnais à tous mes analystes, et Marc le dirait s'il était avec nous, moi, je donnais toujours le conseil sur ce qu'on peut contrôler. Et donc, nous, ce qu'on peut contrôler, c'est notre préparation, c'est notre rigueur, c'est faire nos devoirs. Il faut aussi accepter que même nous, un peu comme une équipe de hockey, on ne sera jamais égaux tous les soirs. On est des humains, et donc, on va avoir des performances parfois variables, Parfois, on voit ça bien pire qu'en réalité. Parfois, il y a des choses qu'on ne réalise pas et qu'on aimerait refaire.
Par contre, vous êtes à la merci du spectacle qui est sur la glace.
Mmh. Oui, on est à la merci du spectacle qui est sur la glace. Puis qu'est-ce que tu veux? Max, t'es trop jeune, mais vous êtes tous trop jeunes. Moi, j'ai grandi, imaginez-vous, en vivant les dynasties du Canadien. Parce que c'est pas seulement les quatre Coupes Stanley des années 70. J'ai aussi vraiment vécu celle de 71, qui pour moi, personnellement, là, 71, c'est... Et je sais que mon défunt frère avait un très mauvais souvenir parce que le Canadien avait éliminé les Blackhawks en finale de la Coupe Stanley. Paul, je sais pas où t'es exactement, mais je m'en excuse. Pour moi, alors, c'est sûr que, Max, je sais que je fais un long détour, là, mais moi, j'ai vécu ça. Et quand j'ai commencé à décrire le hockey en 89, je savais très bien que c'était plus ça, le hockey, et que le Canadien de Montréal n'était plus là, et que ce n'était plus... C'était plus... Comment je pourrais dire ça? Ça ne ferait plus partie de mon univers. Il y a eu une Coupe Stanley en 93, mais c'est Radio-Canada qui avait les droits de la finale à l'époque. Alors, c'était même pas nous autres à RDS. Donc, je m'attendais à ça. Maintenant, est-ce que je m'attendais à ce que ce soit aussi...
la reconstruction éternelle?
Ben, c'est un peu ça, dans le fond. Quoique, si tu regardes dans mes 35 années, il y a quand même eu des beaux moments.
C'est vrai.
Écoute, le printemps à Lac en 2010, oui. Là, cette série de... Une chance de n'y être pas là, on peut en parler. Mais cette série de... cette série-là...
À l'époque, il était encore canadien, tu sais, hein?
Ah, ça, je savais pas.
Il n'avait toujours pas transféré du côté de Boston.
Ah bon, je savais pas. Je pensais qu'il avait été Boston toute sa vie. C'est sûr que j'ai eu des moments exceptionnels. Mais là, présentement, il faut vraiment qu'on revienne à ce que je dis souvent. Les gens me demandent, aimes-tu mieux le hockey ou la Formule 1? Moi, je réponds tout le temps, j'aime mieux mon travail. Donc, Max, il faut se rabattre sur notre travail. Il faut être capable de dire... Je vais vous donner un exemple. Vous avez des codes d'écoute qui sont publiés, qui sont tabulés là, régulièrement dans une année. Elles peuvent être au-delà de vos attentes, puis là, on est content, mais elles peuvent être en deçà de vos attentes, puis ça donne un choc, ça donne un coup. Mais qu'est-ce que vous faites le lendemain? Vous vous réinstallez derrière le micro, puis vous vous dites, ben on doit être aussi bon, puis on va essayer d'être meilleur si on veut. Fait qu'on se dit un peu la même chose, nous autres, quand le Canadien bat de l'aile, comme c'est le cas présentement.
T'as parlé des bons moments, parce qu'il y en a eu des bons moments dans les 35 dernières années. Là, c'est une mauvaise séquence. Il y a eu des pires moments qu'en ce moment aussi, dans les 35 dernières années au sein du CH?
Oui, puis je me garde toujours une grande gêne, une grande retenue pour parler de l'intimité dans laquelle on est avec l'équipe, mais je suis tout à fait à l'aise de parler que c'est le jour et la nuit dans le plaisir qu'on a d'être avec les gens qui sont en poste présentement. Vraiment, j'ai connu, et je nomme pas personne, mais on a connu des années et des années de visages longs, d'austérité, d'une certaine pression dans l'entourage de l'équipe. Si vous saviez comment c'est le jour et la nuit, vous vous doutez bien que Chantal y est pour beaucoup, mais vous vous doutez bien aussi que Martin Saint-Louis y est pour beaucoup, que Kent Hughes y est pour beaucoup, que Jeff Gorton y est pour beaucoup. Malgré tous les déboires de l'équipe, on sent tellement... comment je pourrais dire ça? Donc, une aisance d'être dans l'entourage de cette équipe-là. Évidemment, Nathan, que c'est plus le fun quand tu gagnes. Personne ne va nier ça. Et à commencer par nous. Mais au moins, on sent tellement une
volonté?
Une certaine chaleur, okay. Même. Parce que nous, on est invités dans le cercle de l'équipe. On n'est pas de l'équipe. On est des employés d'RDS. On est sous contrat avec Bell Media. On nous admet dans l'entourage de l'équipe et on nous traite bien et on est respectueux envers nous. Et moi, je dis que ça, j'ai le droit de vous en parler au sens large, c'est toute une différence. On aimerait bien mieux que ce soit dans une cause victorieuse, mais disons que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde là, présentement.
D'ailleurs, parlons donc du match d'hier. C'était une cinquième défaite de suite pour le Canadien. Par contre, tu sais, je t'ai entendu beaucoup. Tu voyais ce qui se passait sur la glace, d'essayer de trouver les points positifs. C'est quoi ta lecture quand un Gallagher compte, quand un New Hook compte? Est-ce que c'est parce que les autres ne se lèvent pas?
Non, parce que dans le fond, le trio de Gallagher, là, appelons-le le troisième trio, là, en guillemets, a toujours été constant depuis le début de la saison. Honnêtement, ça a été vraiment une surprise. Gallagher en particulier, mais je veux dire, ça rejaillit sur ses compagnons de trio. Donc, c'est pas lié un à l'autre. Et je lisais tantôt les grands titres parce que c'était journée de congé complète aujourd'hui pour le Canadien. Mais ce que je sens, c'est que même chez les jeunes leaders, la confiance est extrêmement variable de match en match. Et à mesure que les défaites s'accumulent, malgré le fait que tu as des bons moments dans un match, comme c'était le cas mardi, comme c'était le cas hier, mais que tu ressors de l'aréna avec un recul et un déficit, là, c'est la confiance vraiment qui commence à être ébranlée. Mm-hmm. Puis Martin Saint-Louis le disait hier, je commence à être un petit peu inquiet de la confiance de certains de mes jeunes et même de mes jeunes leaders. Mais ça aussi, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de solution. Parce que comme entraîneur, tu dois parler à ton équipe, puis tu dois essayer que collectivement, la confiance soit là, les bonnes décisions, la bonne exécution et tout ça. Mais tu dois aussi t'assurer que chaque individu a ce même niveau-là pour l'amener à l'équipe. Comment il dit ça, Martin Saint-Louis? Ta game dans la game, là, c'est-tu?
Ouais.
Je ne sais pas trop.
Ouais. Faut que tu amènes ta game dans la game. Quelque
faut
chose
que
tu apportes
ta game dans la game.
Ah, voilà.
Bon. C'est ça. Ben, voilà. C'est un peu ça qu'il veut dire. Puis c'est pas juste la notion technique du hockey. C'est aussi ta confiance, c'est aussi ta motivation, la façon de jouer, sans toujours avoir peur de faire une erreur, et ainsi de suite. Moi, je sens beaucoup ça présentement. Et encore là, c'est pas pour défendre. Un mauvais jeu, c'est un mauvais jeu. Mm-hmm. Et les joueurs sont tous des professionnels qui sont dans la Ligue nationale. Puis le droit à l'erreur est limité parce que c'est ça, être dans la meilleure ligue au monde.
Je continue de penser que non, mais quand même, la grogne a monté depuis vendredi passé alors que je t'avais posé la question. Est-ce que le siège de Martin Saint-Louis est en jeu ou tu gardes le même point de vue que la semaine passée à l'effet qu'on est en reconstruction puis qu'on va continuer d'être patient?
Bien, si tu me demandes, moi, mon point de vue, je change pas. Ce n'est certainement pas le temps de défaire déjà cette dynamique dont je viens de parler et qui est fragilisée présentement. Maintenant, si tu me dis, Pierre, ton expérience de 35 ans de hockey, là, ma réponse est peut-être différente. C'est sûr qu'à un certain moment, il y a une direction, puis une direction, c'est pas juste une direction hockey, c'est une direction aussi d'administration, c'est une direction générale qui est capable de dire, est-ce qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits dans notre hiérarchie. Et ça, ta question est très légitime, Max. Mais tu sais, est-ce qu'on va mettre Barry Trotz dehors parce que c'est la pire équipe de la Ligue nationale présentement à Nashville?
Je pense pas.
Qui est responsable des déboires des prédateurs présentement? Barry Trotz a fait un peu... j'ai pas beaucoup aimé ce qu'il a dit cette semaine. Bon, je vais vous faire une reconstruction si vous n'êtes pas content. J'ai pas aimé ça qu'il dise ça. Mais là, il a essayé de s'expliquer ensuite. Mm-hmm. Mais tu vois mon parallèle. Ça devait fonctionner. Écoute, regarde les joueurs qui est allé chercher pour
sur
les
papier.
Ajouter aux
ah,
autres.
Oui.
C'est une des pires équipes de la Ligue présentement. Alors, moi, je dis, dans le cas du Canadien, c'est pas le moment de... Pour moi, Pierre-Houd, là, je pense que Martin Saint-Louis est encore une pièce maîtresse dans le processus de relance de cette équipe-là pour l'amener à être plus mature et plus mature, donc, pour l'amener à avoir de meilleurs résultats. Mais ça, c'est ma lecture à moi. Tout le reste est aussi plausible.
Parlant de plus de maturité, un point qui est beaucoup revenu dans les derniers jours, c'est que l'équipe est jeune, le coaching staff est très jeune aussi. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une possibilité d'amener un adjoint plus expérimenté pour épauler Martin Saint-Louis, un peu comme les Sénateurs l'avaient fait une couple de semaines avant de congédier DJ Smith, on avait amené Jacques Martin.
C'est vrai.
Est-ce que le Canadien pourrait utiliser une stratégie du genre pour amener plus d'expérience en arrière du banc?
Ben, ils l'ont fait, mais pas en arrière du banc. Alors, Martin Saint-Louis a dit, écoutez, moi, j'ai un entraîneur de grande expérience qui a eu une très grande influence dans ma carrière qui s'appelle Roger Grillo. Et puis, il a dit, j'aimerais ça que Roger fasse partie de notre personnel d'entraîneur. Mais Roger a voyagé avec nous là, pendant quelques matchs. Il fait partie de la famille des entraîneurs, mais il n'est pas sur place derrière le banc. Donc, on l'a fait. Est-ce que ça ferait une différence s'il serait derrière le banc? Je pense pas. Je pense que Martin Saint-Louis dirige très bien son banc. Je pense que Stéphane Robida dirige très bien ses défenseurs. Je pense que Trevor Letowski est un entraîneur chef dans l'âme et apporte très, très bien son expertise. Sur le strict plan de la connaissance, Max, on l'a fait avec Roger Grillo. Mm-hmm. Éventuellement, ça sera à voir. Est-ce que ce sont, comme tu disais ta question tantôt, est-ce que ce sont les bonnes personnes en bout de ligne? Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit une question de qu'on ait besoin d'un vétéran dans ce groupe-là, derrière le banc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'on a besoin d'avoir plutôt des... Par contre, ce que j'ai bien aimé, Max, j'ai bien aimé qu'on prenne les difficultés des mises en jeu depuis le début de l'année. Ça, c'est vraiment, mais vraiment cruel pour le Canadien. Et on a tout de suite trouvé une solution. Marc Bureau a toujours été un des meilleurs dans la Ligue nationale. Il est venu coacher les centres pendant mm-hmm. une matinée au complet. Déjà, ça commence à apparaître. J'aime bien qu'on réagisse de cette façon-là.
J'ai envie de te ramener à toi, parce que là, on parle du Canadien déjà depuis quelques minutes. Encore une fois, en lisant aujourd'hui sur la remise du prix Foster et Witt qui s'en vient lundi, plusieurs de tes collègues parlent de ta rigueur concernant la prononciation. Et j'ai un souvenir d'un jeune Nathan qui écoute le hockey avec son père sur le divan. Et mon père qui me dit « Une des grandes forces de Pierre, c'est qu'il va toujours s'assurer de bien prononcer les différents noms des joueurs dans les équipes. » Quel a été le premier nom en 35 ans, au début de ta carrière, quel a été le premier nom qui a nécessité de la recherche? Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, donc c'était quoi la démarche? Quelle a été la démarche de Pierre Houde pour réussir à bien prononcer ce nom-là en ondes?
Bien, je t'en ai parlé d'une partie de la démarche tantôt. C'est l'héritage de René Lecavalier, de Richard Garneau, surtout Richard. Richard était trilingue, hein? Richard, bien, quadrilingue même, parce que l'amoureuse de Richard, dans les longues dernières années de sa vie, elle était russe.
Ah oui?
Ah, wow.
Et Richard parlait parfaitement allemand, et parfaitement anglais, et parfaitement français. Donc, c'était beaucoup au départ... les noms allemands. J'ai appris très tôt de Richard et de René, Pierre Dufault aussi. Pierre était d'une rigueur absolument incroyable. Et j'ai enseigné longtemps à l'école de Pierre Promédia à Montréal. Et donc, j'ai appris très tôt les bases de l'allemand dans les prononciations. Et par la suite, ben, les joueurs tchèques et slovaques sont arrivés, puis les Finlandais, puis les Suédois. Et puis, alors, l'héritage qu'on avait de tous ces grands-là, c'était d'essayer de prononcer le plus exactement possible, dans leur langue, à eux, leur nom de famille ou leur prénom. Moi, je veux dire, où j'ai tracé la ligne, c'est quand ça devient tout à fait presque ridicule dans l'oreille d'un Québécois francophone mm-hmm. qui écoute le hockey à RDS.
Est-ce que Reinbacher serait un exemple?
Bon, Reinbacher est un bon exemple. Tu vois, je le fais à mi-chemin, parce que dans les faits, c'est Reinbacher. Je suis capable de faire ça, puis vous êtes capables tous les trois. Mais là, je vois tout de suite vos auditeurs.
Ça m'étonne.
Ils imaginent la distance. Et, wow! C'est pas très beau dans ma radio. C'est pas très beau sur mon ordi. C'est pas très beau sur mon téléphone. C'est la ligne que je me trace. Dans les noms russes, par exemple, et tu me demandes un qui me tordait la langue parce que je voulais être rigoureux, c'était Karpovtsev. Te rappelles-tu le défenseur des Rangers?
Hey, my, oui.
Mais c'est qu'en réalité, oui. Karpovtsev, ça aurait dû être Karpovtsov. Imagine-toi, quand tu viens de temps, puis si tu mentionnes son prénom en plus, la rondelle est déjà rendue depuis longtemps. Et donc, puis à un moment donné, c'est quand Kovalev est arrivé à Montréal, j'ai dit bonjour Alexei. Il me demande qui je suis. Et puis je dis écoute, moi, depuis que tu joues au hockey, dans ma description, tu es Alexei Kovalyov. Et là, il me dit avec sa grosse voix, « Ne m'appelle jamais Alexei Kovalyov. »
Oh.
Ben, j'ai dit, pourquoi je le fais par respect? Non. Il dit, dans la Ligue nationale, en Amérique du Nord, je suis Alex Kovalev. Et de grâce, tu vas m'appeler Alex Kovalev dès mon premier match. Alors, tu vois, tous les noms russes qui pourraient exiger qu'on dise « Yof » au lieu de « F », j'ai reculé là-dessus parce que je voulais pas me faire... Je voulais pas avoir le gros point d'Alex Kovalev dans ma face.
Je peux comprendre.
alors, tu vois, ça, c'est un exemple. Donc, j'en fais pas une science exacte, mais tous ceux qui me reprochaient de dire au tout début « Tomáš Plekanec », je disais « Pourquoi vous me le reprochez? » Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à dire Tomáš au lieu de Thomas, mm-hmm. puis Plekanec au lieu de dire Plekanec? Mm. Pourquoi vous me le reprochez? Le joueur lui-même me remercie de le faire. Alors, quand c'est naturel et quand c'est pas discordant, je vais faire l'effort, soit en allant voir le joueur, soit en trouvant des sources qui m'aident dans les prononciations des différentes syllabes, des différentes voyelles.
Pierre, on jaserait avec toi pendant des heures, mais ça fait déjà plus qu'une demi-heure qu'on t'a pris. Je veux terminer en disant, ta réputation est plus à faire. On connaît ta rigueur professionnelle, on vient de s'en parler, ta passion pour ton travail. Tu inspires un tas de gens. Tu nous accompagnes depuis tellement d'années. Je ne sais toujours pas comment tu fais pour avoir plus que 24 heures dans ta journée à faire tout ce que tu fais. Puis depuis 10 ans, tu continues à trouver le temps à chaque vendredi pratiquement, beau temps, mauvais temps, de venir nous jaser, d'avoir avec nous autres des conversations qui vont être champ gauche, qui vont passer de la musique aux conversations hyper philosophiques, en passant par, oui, le sport, mais souvent des sujets psychotroniques, comme tu les appelles.
Psychotroniques, oui. J'ai déjà aussi détruit un ordinateur.
Oui, avec nous
en
autres.
En direct.
Exact.
Avec
que
vous.
T'as pas idée du privilège immense que c'est pour nous de partager ces moments-là avec toi. Puis, tu sais, Nathan le soulignait, on a pu lire un tas d'hommages qui t'ont été adressés par tes pairs aujourd'hui, puis chaque mot était tellement, mais tellement mérité parce que tu es un grand professionnel. Mais le côté personnel que tu nous ouvres à chaque semaine sur ta vie privée, sur ton intimité, des moments de grande sensibilité que tu oses partager avec nous autres, avec nos auditeurs depuis aussi longtemps, c'est absolument fantastique. Tu mérites tous les honneurs qui te reviennent, autant sur le plan professionnel que personnel. Profite de ta journée de lundi. Apprécie chaque moment, chaque personne qui va être là pour toi. Pierre, on t'aime. Et Denis et Audrey sont pas avec moi, mais je suis persuadée qu'ils diraient la même affaire. Merci d'être là avec nous autres. C'est un charme.
Ben vraiment, merci beaucoup. Je suis sans mots devant tout ce que tu viens de dire parce que...
C'est impossible.
Oui, crois-le ou non. D'ailleurs, c'est le début de mon discours. Je dis souvent, je cherche les mots. Moi, the talking machine, la machine à parler. Je trouve difficilement les bons mots dans ce contexte actuel. Mais je vais conclure en disant que si j'arrive à le faire avec vous, c'est parce que vous m'amenez à le faire aussi. Et
les
je
pieds
me sens
sur le
confiance
pouf.
Avec vous. Alors, les pieds sur le pouf, vous m'amenez à le faire aussi. Et c'est un contexte qui est comme surréaliste. Je n'ai aucune autre attache radio, croyez-le ou
je
non.
Je sais, c'est fou.
Ni en français, ni en anglais, ni partout dans le monde. Alors, moi, je pense que c'est ce qui fait notre charme. Tu sais, le petit village irréductible.
Ouais.
C'est ce qui fait. Je pense que c'est ce qui fait le plaisir. Très différent d'être avec vous puis de jaser avec vous. Quand je dis avec vous, là, toutes les oreilles qui sont à l'écoute présentement, c'est de vous dont on parle. Alors, merci encore de m'accueillir tout le temps aussi bien.
Profite bien de tes journées, profite de ton lundi, puis j'ai hâte que tu nous racontes la vendredi prochain comment tout ça s'est déroulé.
J'ai l'impression que ce seront des grandes émotions.
Bien. Bon, ben profite-en bien, Pierre. Merci
OK,
encore.
Salut à vous trois. Merci salut. Beaucoup. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine à toi.
Bye bye.
Pierre Houde qui nous jase à tous les vendredis, puis j'y crois jamais à chaque fois. Je suis obligée de me pincer. Quand on se texte, je comprends toujours pas, là.
C'est malade, là.
Poser mes questions de Canadien à Pierre Houde, puis discuter avec Pierre Houde, c'est comme...
À un membre du Temple de la Renommée.
C'est fou, là!
Ouais.
C'est vraiment
c'est incroyable.
Il est rendu à 16h46 avec tout ça. Pas le choix, on va s'arrêter quelques instants. Gravel.